les escrocs, les criminels les plus sournois. Charmants, froids et calculateurs, ils trahissent la confiance et détruisent des vies, tout en restant une énigme totale. Nous allons explorer le monde mystérieux de ces grands criminels. Nous vous fournirons un aperçu inédit des rouages complexes de l'esprit de quelques-uns des escrocs les plus rusés du monde. Nous révélerons les détails et les subtilités de leurs crimes élaborés, et découvrirons comment la justice a fini par les rattraper. Dans cet épisode, nous allons voir l'histoire de ce faux médium qui a exploité sans pitié des personnes croyant au monde spirituel. Les personnes âgées puisant du réconfort dans ses soi-disant pouvoirs psychiques, ils se servaient de leur confiance comme d'une arme pernicieuse. Paul Williams s'en prenait aux personnes les plus vulnérables de la société, à savoir les personnes âgées et les personnes en deuil. Il a ainsi profité de leur vulnérabilité pour s'emparer des économies de toute une vie.
Paul Williams se décrivait lui-même comme l'un des meilleurs médiums qui existent.
Paul Williams était un escroc cruel, qui utilisait son charme envoûtant et des mensonges à glacer le sang, pour escroquer froidement les personnes âgées, en deuil, et sans défense.
Je décrirais Paul Williams comme un escroc opportuniste.
Il utilise son statut de médium pour attirer les gens.
En manipulant les personnes qui croient à la voyance, Paul Williams a commis l'impensable. Il a abusé de la confiance de ces personnes âgées, en inventant de touchants messages venus du monde spirituel, qui poussaient les gens à lui donner leur argent.
Il a repéré une occasion de manipuler les personnes les plus vulnérables de notre société. Les personnes âgées et celles devenues veuves depuis peu.
Paul Williams était un médium sans pitié, qui utilisait ses pouvoirs pour tirer avantage de la solitude de ces gens.
Il utilisait ensuite la psychologie pour les convaincre de lui donner de l'argent, d'inscrire son nom sur leur testament, ou tout ce qu'il pouvait leur demander.
Paul Williams pourrait avoir un doctorat en art de l'escroquerie.
En 1997, Paul Williams, âgé de 39 ans, vit à Stourton, dans les Midlands, avec sa femme et sa famille. Paul est bien connu dans la région du Black Country, il est une sorte de célébrité locale en raison de son don autoproclamé.
Dans les Midlands, Paul Williams est mieux connu sous le nom de Paul Doran. C'est son nom de scène. C'est un médium, ou du moins, c'est ce qu'il veut faire croire.
Il s'était fait un nom au sein de la communauté locale, grâce aux diverses sessions de médiums spiritualistes qu'il animait dans la région. Il aimait se considérer comme un homme assez apprécié.
Les gens venaient le voir pour ses pouvoirs psychiques, pour sa capacité à exorciser les fantômes, pour son don pour lire l'avenir, pour sa capacité à contacter des proches décédés, des êtres chers, ce genre de choses.
Et il était très ostentatoire. La plaque de sa voiture était même « psychic », qui signifie « voyant » en anglais. Tout le monde était un peu en admiration devant lui. Et il n'y avait aucune raison de croire qu'il n'était pas sincère.
Paul Williams était charmant, agréable et populaire. Le showman par excellence. Et même l'origine de son don psychique était spectaculaire.
Il a déclaré avoir participé à la bataille de Port Stanley. Il avait cette histoire épique, relatant les circonstances de sa mort et de son espèce de renaissance.
Ce qu'il m'a dit à moi et à quelques autres personnes présentes à l'époque, c'est qu'il avait participé à la guerre des Malouines. Il y avait eu une explosion et des éclats d'obus arrivaient droit sur lui, mais il les avait vus arriver au ralenti. Il ne pouvait absolument rien y faire. Il savait qu'ils allaient le frapper et il ne pouvait pas bouger car il était bloqué. Et puis apparemment, il est mort, il a senti qu'il était passé de l'autre côté. Il a vu la lumière blanche et il a été attiré vers cette lumière.
Et il y avait sa grand-mère au bout de la lumière blanche. Sa grand-mère, qui, selon lui, avait des dons de médium, lui a dit « Paul, ton heure n'est pas venue. Retourne-y et aide les gens. »
C'est à ce moment qu'il aurait acquis le don de médium. Il était revenu pour une raison, peut-être pour devenir cette personne au talent surnaturel qui allait aider toutes sortes de gens de différentes façons, grâce à ses dons.
Paul Williams a été interviewé en 1999 pour un pilote télévisé non diffusé, intitulé « Fantômes et autres mystères du Black Country ». Dans cette séquence, Williams parle de l'événement extraordinaire qui a révélé son don de voyant.
Quand j'ai récupéré de cet accident, après une longue convalescence, j'ai commencé à me demander pourquoi ça m'était arrivé. Et j'ai commencé à m'intéresser au paranormal.
Des années plus tard, l'histoire de Paul Williams s'est révélée être une pure invention. Et un avant-goût de la supercherie à venir.
Des vérifications auprès de la Royal Air Force et de l'armée ont révélé qu'il n'y avait aucune trace d'un homme de ce nom, ou né à cette date, ayant servi au Malouine à l'époque.
Comme tout ce que dit Paul Williams, c'est un ramassis d'inepties.
Malgré les origines fictives et farfelues du prétendu don de médium de Paul Williams, sa carrière de médium lui a permis de mener une vie de luxe et d'opulence.
Paul Williams vivait dans une jolie petite maison d'éclusier sur un canal, dans le Staffordshire. Sa maison était très impressionnante à regarder. Elle est très pittoresque. C'est une maison qui doit coûter très cher.
Au bord du canal, à côté de sa maison, il a ouvert une boutique de cristaux et de cartes de tarot. Il vendait toutes sortes d'objets mystiques. Les gens passaient devant, alors il discutait avec eux. Il lui achetait des objets. Je pense que c'était une activité assez rentable. En plus de sa petite boutique ésotérique, il était employé comme voyant salarié par un hôtel de Stourbridge, le Talbot Hotel. C'était sûrement le premier hôtel du pays à proposer à la fois le petit déjeuner et la lecture des lignes de la main. Il était donc une personnalité très connue, hors du commun et charmant.
Paul Williams, qui faisait sa propre publicité et qui était partout dans les journaux locaux, a même prétendu que la police avait fait appel à son don pour élucider des crimes.
Paul Williams a affirmé avoir aidé la police à enquêter sur des crimes graves. À ma connaissance, il n'a jamais aidé la police dans aucune enquête.
Mais ce ne sont pas ses seuls mensonges. Williams s'autoproclamait médium d'un grand nombre de célébrités.
Il a également affirmé avoir été l'ami ou le conseiller spirituel de plusieurs célébrités.
Cela concerne de nombreuses stars de la télévision, du sport et de la musique. Mick Cucknall de Simply Red, Babs Windsor, Steve Davis, Michael Barrymore.
Il m'a même dit qu'il avait conseillé tout le casting de la série Coronation Street, il me semble, et qu'il avait également lu l'avenir de certains acteurs de EastEnders.
Je lui ai demandé s'il était réellement médium de star. Je lui ai dit, vous étiez le voyant de Barbara Windsor, n'est-ce pas? Il m'a répondu, oui, mais c'était il y a longtemps, ça fait des années. Ah d'accord, alors c'est vrai? Oui, bien sûr. Et Michael Barrymore, vous le connaissez bien? Oui, tout à fait. Mais il semblait moins sûr de lui. Puis j'ai ajouté, Mick Cucknall, Steve Davis, oui, mais c'était il y a longtemps.
Lorsqu'on leur pose la question, toutes les célébrités à qui Williams a prétendu avoir donné des lectures psychiques dénient avoir rencontré Paul Williams ou Paul de Haran.
Mais il n'a pas uniquement raconté des mensonges sur des célébrités. Ce n'étaient pas des mensonges anodins, du genre « je suis un héros de guerre ». Il ne se contentait pas de dire « oui, j'étais pote avec Michael Barrymore ». Ils étaient bien plus nocifs que ça. Williams visait les personnes âgées et vulnérables. Ce qu'on pense, c'est qu'il a dû escroquer beaucoup de gens. Mais sa manière de procéder est très difficile à prouver. Irene Nixon en est le parfait exemple. C'était une vieille dame. Elle s'intéressait beaucoup au paranormal et aux capacités psychiques. Elle était passionnée par ce genre de choses. On pense que c'est après avoir discuté avec des proches d'Irene que Paul l'a rencontrée lors d'une soirée de spiritisme à laquelle elle avait participé. Il lui a dit, comme à beaucoup d'autres femmes, qu'il pouvait parler à son mari décédé. Irene Nixon l'a cru. Après tout, c'est un homme charmant. Il a une très bonne réputation en tant que médium. Elle croyait en ce genre de choses. Elle avait sûrement envie de croire qu'il pouvait parler à son mari décédé.
Elle était manifestement très bouleversée. Elle avait besoin de réconfort. Et puisqu'elle croyait aux phénomènes psychiques, elle pensait que Paul avait potentiellement la capacité d'entrer en contact avec son mari. Bien sûr, ça la consolerait énormément de savoir que son mari décédé pensait encore à elle. Et Paul a bien profité de cette espérance.
À suivre, la cruelle mise en scène de voyance de Williams lui permet de se faire de l'argent, mais va honteusement mettre à la rue des personnes âgées innocentes.
Il lui fait expulser ses locataires contre son gré, puis a directement tourné son attention vers les prochaines victimes de ses manipulations.
Paul Williams est probablement ce qu'on peut considérer comme un escroc traditionnel.
Paul Williams s'est fait passer pour un voyant et un médium. Mais en fin de compte, il s'est avéré être un escroc insensible et méthodique, s'attaquant à des personnes âgées et vulnérables.
On ne peut pas escroquer les gens et leur soutirer leur argent comme ça, en se faisant passer pour ce qu'on n'est pas.
On peut dire que cet homme est quelqu'un d'extrêmement charmant.
Les personnes qui avaient rencontré Paul croyaient qu'il était quelqu'un d'authentique.
Il s'en prend aux personnes vulnérables, aux personnes âgées et en détresse et il se sert de leurs émotions de manière très efficace.
On sait maintenant que le don psychique de Paul Williams est bidon. Mais en 1998, il se retrouve dans une position idéale en devenant l'un des principaux voyants et médiums des West Midlands, et il parle ouvertement de ses soi-disant pouvoirs psychiques.
Je suis monté dans la chambre où elle avait eu ses problèmes, et lorsque j'ai fermé la porte, toutes les photos qui se trouvaient sur ce buffet se sont détachées, elles ont foncé vers moi, et m'ont propulsé contre le mur, ce qui m'a légèrement sonné.
Mais personne ne se doutait que cet homme était un charlatan qui s'apprêtait à dérober les économies d'au moins deux victimes dont on ait la connaissance.
Il offrait souvent des consultations psychiques, que ce soit pour des personnes qui voulaient exorciser des fantômes ou des gens voulant contacter des proches décédés. Et il organisait aussi ces espèces de sessions. Des groupes de 20 ou 30 personnes qui se réunissaient pour faire une sorte de rituel en se tenant par la main, ce genre de choses. Il jouait le rôle d'intermédiaire, de médium, c'était littéralement le médium psychique du groupe.
Paul Williams utilisait son faux don de médium pour escroquer les gens, ce qui faisait que ses victimes venaient directement à lui. Très pratique pour lui.
C'est un exemple de ce qu'on appelle des victimes auto-sélectionnées, une des causes de la popularité et de la rentabilité des escroqueries liées aux voyants. Car quand des gens viennent vous consulter en tant que médium, vous savez déjà que ce sont des personnes assez crédules. Ils viennent vous voir en disant « Moi j'y crois ». Vous êtes donc très bien parti. Et bien sûr, il n'y a aucun moyen de contredire ce que disent les personnes décédées. Les escrocs ont donc beaucoup moins de risques de se faire attraper.
Les personnes qui viennent voir Paul Williams viennent de perdre un être cher. Elles sont dans un état de vulnérabilité intense. Elles sont âgées et elles ont besoin de soutien. Elles ont besoin qu'on les aide. Elles demandent de l'aide. Et il a totalement abusé d'elles et trahi leur confiance.
Irene Nixon fait partie des femmes qui ont vraiment cru au don de médium de Paul Williams. Irene consulte Williams pour la première fois en 1998, dans l'espoir d'entrer en contact avec Ernest, son mari récemment décédé. Williams devient ami avec Irene, comme le montre cette séquence d'un pilote télévisé non diffusé.
Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Irene Nixon, la femme qui est devenue ma mère adoptive et à qui je tiens beaucoup.
Il s'est assez rapidement immiscé dans sa vie. Je pense qu'il a dû découvrir assez rapidement qu'elle n'avait pas d'enfants et qu'elle était très riche. Elle possédait une belle maison à Tipton, ainsi que de nombreux bijoux. Elle avait de nombreuses figurines royales d'Alton. Et elle logeait trois locataires dans sa maison, chacun d'entre eux lui versait un loyer. Donc, Paul a fini par se lier d'amitié avec elle. 4 mois plus tard, elle rédige un testament dans lequel elle lègue tous ses biens à Paul Williams. Et si Paul mourait avant elle, c'est son fils Stephen qui deviendrait l'héritier. Il y a eu quelques autres legs et des dons caritatifs, quelques milliers de livres par-ci, quelques milliers de livres par-là à d'autres membres de la famille. Mais la majorité de la fortune et la maison étaient légués à Paul Williams.
Irene Nixon avait deux cousins en vie, Doug et John Hyde, dont elle était proche. Mais le testament rédigé par le notaire de Paul Williams le 12 février 1999 indique qu'Irene lègue sa maison à son nouvel ami qu'elle connaît depuis 4 mois. Malheureusement, à l'automne de la même année, la santé d'Irene Nixon commence à se détériorer. Elle est admise à l'hôpital, et ses cousins, inquiets, se précipitent à son chevet.
C'est une grande indication de l'influence que Paul a exercée sur Irene. Le fait que, quand elle était à l'hôpital et que ses deux cousins, dont elle était très proche, puisqu'elle passait tous ses Noëls avec eux et leur rendait régulièrement visite. Quand ses cousins ont essayé d'aller la voir à l'hôpital, Paul avait fait croire au personnel qu'il était son fils.
Et Doug a dit, comment ça ? Elle n'a pas de fils. Et l'infirmière qui répond, si, je l'ai rencontré, c'est Paul. Doug connaissait l'existence de ce Paul. Il savait que Irene s'intéressait à la spiritualité et à ce genre de choses. Il s'est dit qu'il devait faire partie de ce genre de groupe. Il a dit à Paul, c'est quoi cette histoire ? Vous vous faites passer pour son fils ? Qu'est-ce qui se passe ? Apparemment, Paul a dit, je suis le fils qu'elle n'a jamais eu. Elle aime dire que je suis son fils, car je suis le fils qu'elle n'a jamais eu. Et Doug a dit, à l'époque, je me suis dit pourquoi pas, c'est une explication assez juste. Il a l'air d'être sympa. On dirait qu'il est d'Irène. Je me dis que c'est une bonne chose. Quelques mois plus tard, l'état d'Irène s'est gravement détérioré et Doug a écrit à son avocat. Pensez-vous que nous devrions avoir une procuration? Il propose de faire une procuration au nom de Paul mais aussi de ses frères. Sous les instructions de Paul, l'avocat a répondu, non, elle est tout à fait saine d'esprit. Nous n'avons pas besoin de procuration. En fait, son état s'améliore. Quelques mois plus tard, Irène est malheureusement décédée.
Irène Nixon est décédée le 22 décembre 2000. Un peu plus de 2 ans après avoir rencontré Paul Williams. À sa mort, Doug et John se rendent compte que leur cousine a légué la grande majorité de ses biens à Paul Williams. Mais ils vont faire une autre découverte choquante.
Le plus terrible, c'est que l'exécuteur testamentaire était Paul. Il a eu le contrôle total après sa mort. Irène n'avait pas d'enfants, mais elle avait des cousins, des nièces et des neveux. On aurait pu penser qu'elle aurait fait d'eux, de sa famille, les exécuteurs de son testament, et non quelqu'un qu'elle n'avait rencontré que 4 mois auparavant.
Doug et John Hyde ne supportent pas de voir Williams dominer les débats lors des funérailles d'Irène, ils décident donc de ne pas y assister. Mais Williams est là, et il est au centre de la scène.
Paul a fait un éloge funèbre aux funérailles. La femme de Doug y était. Elle a dit que c'était la chose la plus affreuse qu'elle ait jamais entendue. Il a versé des larmes de crocodile. Il a dit que Irène était son amie la plus proche, la deuxième mère de sa vie. Elle a dit que ça sonnait très creux.
Williams s'est sans doute convaincu qu'il ne faisait rien de mal. Si Irène voulait lui léguer ses biens à sa mort de son plein gré, eh bien, qu'il en soit ainsi. Qui peut lui refuser sa dernière volonté? En réalité, c'est lui qui lui a refusé sa dernière volonté.
Paul Williams n'a pas enfreint la loi, mais la générosité d'Irène Nixon a donné au faux médium les moyens de poursuivre sa mascarade et d'escroquer cruellement l'un de ses locataires. Et l'escroc ne respectera pas les dernières volontés d'Irène Nixon.
On a un aperçu de la véritable personnalité de Paul Williams après la mort d'Irène, quand il devient propriétaire de sa maison. Comme il le savait, elle avait stipulé dans son testament qu'elle voulait que ses locataires continuent à y vivre.
L'un d'entre eux était déjà décédé, mais il y en avait 2 autres, Gérard Rowley et Ted Boschwitzki, un Polonais. Dans le testament d'Irène, il était stipulé qu'après sa mort, ces hommes devaient pouvoir continuer à vivre là, aussi longtemps qu'ils le souhaitaient. 12 à 18 mois après le décès d'Irène, la maison a été vendue. Ted s'est retrouvé sans domicile fixe dans les rues de Tipton et Gérald Rowley a été placé dans une maison de retraite avec l'aide de Paul Williams. Ce n'est pas exactement ce qu'Irène aurait voulu.
Il a totalement abusé de la confiance qu'elle avait placée en lui. Et il a très vite tourné son attention vers sa prochaine victime. Il s'agit de Jerry Rowley, l'un des locataires âgés d'Irène.
Paul Williams ne se sert pas de son statut de médium semi-célèbre pour escroquer ses victimes. Il s'appuie sur le fait que sa victime est vulnérable, âgée et aveugle à cause d'une cataracte.
Williams a clairement vu une occasion de profiter de lui et il a préparé son coup, notamment en établissant avec lui une relation de confiance. Et finalement, Williams a réussi à voler toutes les économies de ce pauvre homme.
Alors que l'homme est sans domicile fixe depuis la mort d'Irène Nixon, Paul Williams trouve un logement à Jerry Rowley à 15 km de son ancien domicile. Puis il l'aide à transférer son argent dans une banque plus pratique. Un acte de gentillesse en apparence, mais en réalité un moyen pour Paul Williams d'escroquer de manière dévastatrice et cruelle, un vieil homme handicapé, en lui volant les milliers de livres qu'il économisait pour financer ses funérailles.
Vous savez, à l'époque j'étais presque aveugle. Je ne me rendais compte de rien, je pouvais faire tomber 50 centimes par terre. J'avais une cataracte très grave, et je ne voyais absolument rien. J'avais un compte bancaire à Tipton, à la banque Tipton Building Society. Et il m'a dit qu'il valait mieux que je le transfère à Yorkshire, sur High Street. Je lui ai donné mon livre comptable, et il est allé transférer mon compte de l'ancienne banque à Yorkshire. Et ce n'était pas un compte joint, c'était un compte à mon nom. Il a inscrit son nom à côté du mien. Il a tout retiré et m'a laissé 100 livres sur les 7000 livres qu'il devait y avoir dessus à l'époque.
Jerry Rowley était un locataire d'Irene Nixon. C'est ainsi que Paul l'a rencontré. Il l'a aidé à se reloger. Mais en fait, il l'a expulsé de la maison d'Irene et l'a placé dans une résidence pour personnes âgées à Stourbridge. Il l'a aussi persuadé de changer de banque. Et dans la foulée, il s'est assuré que son nom soit inscrit comme titulaire du compte bancaire. Puis il a volé son chéquier et ses coordonnées bancaires. Il y avait environ 6500 livres sur ce compte bancaire. Il économisait pour payer ses propres funérailles. Williams a vidé le compte et a émis de nombreux chèques frauduleux.
La falsification de chèques, ou la fraude aux chèques comme on l'appelle dans le milieu de l'escroquerie, est un domaine traditionnel et lucratif de l'escroquerie, car c'est une autre forme de crédit. Ce n'est qu'un bout de papier, mais en réalité, ce bout de papier vaut de l'argent. C'est un terrain propice à l'escroquerie. Pour moi, c'est une nouvelle preuve que les escrocs n'ont pas de problème de conscience. Il arnaque sans remords ce pauvre homme qui est âgé et aveugle. Il n'a vraiment aucune humanité. Les escrocs en général n'en ont pas.
Jerry avait économisé pour ses funérailles. Williams a dû se dire que ce n'était qu'un enterrement. Il ne sera pas conscient de ce qui se passera lors de ses funérailles. Soyons réalistes, il sera mort. Donc ça n'a aucune importance. Ça n'aura pas d'importance si je lui prends cet argent.
En 2003, Paul Williams vole 2900 livres sur le compte de Jerry Rowley. Il utilise aussi frauduleusement le chéquier du retraité pour lui voler 3591 livres supplémentaires, vidant presque totalement son compte bancaire. Un ami de Jerry s'inquiète du fait que Paul Williams possède le livret bancaire de Jerry Rowley. Jerry essaie de contacter Williams à plusieurs reprises pour lui demander le livret, en vain. Son ami l'emmène donc à sa nouvelle banque, où l'horreur de ce que Williams a fait à cet homme de 82 ans est finalement révélée.
C'est la propriétaire de l'hôtel Talbot qui avait eu des informations à ce sujet. Elle m'a emmené à la Yorkshire Building Society, mais il avait tout retiré. Tout l'argent avait été retiré au nom de Paul Williams. Il a d'abord retiré 1200 livres pour payer son essence au garage Wollaston. 1200 livres. Je ne savais rien de tout ça. Il a retiré l'argent à son nom. Il y a apposé sa signature. C'était mon argent. Chaque centime, je l'avais gagné.
C'est ainsi qu'il a été attrapé pour la première fois. Gérald a découvert que de l'argent avait disparu de son compte. Il se doutait que c'était Williams et s'est rendu à la police.
C'est à moins que rien. J'éprouve un profond dégoût pour cet homme. À moins que rien. Il est tout en bas de mon estime.
Après avoir perdu ses économies, Jerry Rowley a déclaré avoir eu des pensées suicidaires, mais heureusement, il n'est pas passé à l'acte. Par contre, Jerry s'est rendu à la police pour signaler ce que lui avait fait Paul Williams. Sans que Williams le sache, la police commence à enquêter sur l'escroc, qui après avoir siphonné Jerry, était passé à sa prochaine victime. Cette victime allait subir son escroquerie la plus cruelle et la plus terrible. À suivre, la comédie de médium de Williams atteint des niveaux encore plus dévastateurs et méprisables.
Williams a dit à Joyce qu'il avait reçu un message psychique qui l'attirait. Ce message le menait vers l'horloge du grand-père où, comme par hasard, Charles avait caché son testament.
Paul Williams est un criminel qui s'est servi du monde spirituel comme de son arme de prédilection pour détruire la vie de personnes âgées et endeuillées.
Il a essayé de se donner une image positive pour encourager les autres à lui faire confiance.
Williams se faisait passer pour un médium pour escroquer les personnes âgées, vulnérables ou endeuillées.
C'est un homme qui tirait du profit d'une manière vraiment très cruelle et insensible. Il profitait de personnes âgées, solitaires et très vulnérables. C'est ignoble.
On ne peut pas jouer avec la vie des gens comme ça.
Il a escroqué plusieurs personnes en leur soutirant de grosses sommes d'argent, et on pourrait presque croire qu'elles lui ont donné cet argent volontairement.
La méthode de Paul Williams consistant à utiliser le monde spirituel pour escroquer les gens peut paraître novatrice. Mais dans les annales sombres et tordues de l'histoire de l'escroquerie, de nombreux criminels ont utilisé cette méthode cruelle et sans cœur.
Les faux médiums font ça depuis longtemps. Pour convaincre les gens qu'ils sont authentiques, ils utilisent ce qu'on appelle la lecture à froid. Parfois, ils utilisent aussi la lecture à chaud. La lecture à froid consiste à observer la posture des gens et plus précisément, à écouter ce qu'ils disent. Ils observent les petits indices qu'ils leur donnent et les combinent avec des affirmations, des suppositions ou des déclarations très générales, qui ont une forte probabilité d'être justes. Ensuite, ils observent les réactions des gens. Ils utilisent ensuite ces réactions pour être de plus en plus précis. Tout du long, les gens les croient sincères. Mais en réalité, ils ne réalisent aucune découverte sur le plan psychique. Ce sont des devinettes et de l'observation. La lecture à chaud, c'est quand on fait des recherches. On se renseigne à l'avance sur la personne qui vient nous voir. On la recherche sur Internet, on peut même engager un détective privé pour dénicher des informations. Et bien sûr, on les étonne en leur donnant les informations qu'on a lues dans leur esprit.
Après avoir brièvement travaillé avec Paul Williams, la médium Sabina Hayward a été témoin direct de sa lecture à chaud.
Je le décrirais comme une personne assez manipulatrice. Parfois, il me demandait presque de le rassurer afin de prouver au public qu'il était sincère. Par exemple, je crois que nous étions au centre commercial et en dessous du centre, des personnes avaient péri dans un accident de mine de charbon. Et il disait, « Est-ce que vous ressentez quelque chose dans cet endroit ?» Il se renseignait d'abord sur un endroit, puis il prétendait avoir une connaissance psychique du lieu grâce à sa capacité psychique. Il commençait donc par lire des articles et ensuite, il mettait en scène ses faux talents de médium pour faire croire qu'il ressentait des choses.
Comme le montre cet extrait d'une émission télévisée non diffusée, Paul Williams travaillait dur pour essayer de convaincre le monde que ses dons de médium étaient bel et bien réels, et non un outil qu'il utilisait pour voler les économies de ses victimes.
Je voyage dans tout le pays pour étudier le paranormal, pour être témoin de ces événements. Mais l'endroit que je préfère, c'est chez moi, dans le Black Country.
Personne n'aurait pu prédire sa prochaine escroquerie sans pitié. Mais il inquiétait et contrariait certains de ses clients qui lui faisaient confiance.
Des personnes qu'il avait consultées venaient me voir énervées par son attitude à leur égard. Parfois, il disait simplement, « Je ne peux pas lire pour vous. C'est tout, je ne lis pas pour vous. » Donc ces personnes pensaient au pire. Elles venaient me voir un peu effrayées. Quand je regardais les cartes et que tout allait bien pour ces personnes, je me demandais à quel jeu ils jouaient. Avec le recul, il les a peut-être rejetées parce qu'elles n'avaient pas les moyens financiers pour lui permettre de gagner de l'argent.
Je suis sûre qu'il a vu des gens de tous horizons. Mais il était probablement capable de choisir précisément les personnes les plus dociles, celles qui étaient les plus influençables, les plus susceptibles de lui demander son aide et de lui faire confiance. Bien souvent, c'était des personnes âgées. Il savait aussi que ces personnes allaient probablement mourir très prochainement. Il y avait donc une belle somme d'argent à récupérer s'il se liait d'amitié avec ces personnes.
En 2004, Williams s'était déjà fait pas mal d'amis. Il a hérité de la maison d'Irene Nixon, puis il a volé plus de 6000 livres à son locataire handicapé. Paul Williams ignorait que la police avait commencé à enquêter sur lui. Il avait déjà trouvé ses prochaines victimes, un couple de croyants spirituels qu'il connaissait par intermittence depuis les années 1990.
Les dernières victimes connues de Williams sont un couple du nom de Joyce et Charles Sutton. Il connaissait Williams depuis le début des années 90 et l'avait rencontré par l'intermédiaire de la communauté spirit. Ils ont construit une amitié et une proximité au fil des ans et j'imagine qu'ils se faisaient grandement confiance. Mais jusqu'à présent, il ne leur avait encore rien volé.
Joyce Sutton et son mari se rendaient souvent aux sessions spirituelles qui se tenaient régulièrement dans divers établissements de Stourbridge. Ils sont devenus bons amis. Joyce Sutton a également demandé à Paul Williams de l'aider à se débarrasser d'un mauvais esprit à son domicile, à Dudley.
Joyce et Charles avaient rencontré Paul Williams, ou Paul Duran comme il se faisait appeler, lorsqu'il avait exorcisé le fantôme de la première femme de Charles Sutton à leur domicile. Joyce était la deuxième femme de Charles et s'imaginait que sa première femme n'était pas ravie de leur mariage.
Williams avait même l'habitude de se vanter de ce qu'il avait fait pour Joyce et son mari.
Pour faire court, j'ai réussi à régler ce problème et la dame est aujourd'hui très reconnaissante. Je reçois chaque année des cartes de Noël de sa part, des cartes d'anniversaire et des petits cadeaux, elle est heureuse.
Joyce Sutton était peut-être heureuse à l'époque, mais elle était loin de se douter que le faux médium allait finir par la manipuler.
Elle croyait manifestement tout ce que lui disait Paul Williams. Les réunions auxquelles elle a assisté lui ont permis d'acquérir une bonne connaissance du monde spirit et du spiritisme. Avec la publicité que Paul se faisait, les réunions auxquelles elle participait et le service qu'il lui avait rendu chez elle. Je pense qu'elle croyait tout ce qu'on lui disait.
Fin 2004, Charles, le mari de Madame Sutton, est tombé malade. Madame Sutton demandait régulièrement à Paul Williams de la conduire à l'hôpital et de faire de petites courses pour elle. Malheureusement, M. Sutton est décédé à la fin de l'année 2004. Ça a été une catastrophe pour Madame Sutton.
Charles Sutton a eu une crise cardiaque, un AVC brutal. Il est décédé en décembre 2004. Joyce, dévastée, trouve alors réconfort auprès de son ami Paul Dehoran.
Paul Williams intervient pour consoler la veuve éplorée, la première étape de son plan machiavélique.
Et étonnamment, il a vraiment été là pour elle. C'était un roc, il l'a aidée à surmonter la mort de son mari. En fait, il l'a encouragée à s'installer dans un hôtel pour l'aider à se remettre de la mort de son mari.
Au fur et à mesure du temps, Joyce faisait de plus en plus confiance à Paul Williams. Et c'est ainsi qu'il a réussi à obtenir ce qu'il voulait de la part de Joyce.
Les similitudes entre l'affaire Hickson et l'affaire Sutton résident dans la relation entre Williams et ses victimes potentielles, mais aussi dans le fait qu'il ait utilisé ses soi-disant capacités psychiques pour exercer une emprise, une sorte de pouvoir sur eux. Le fait qu'ils puissent parler à quelqu'un qu'ils aiment. C'est cela la raison pour laquelle ils le respectent et lui font confiance. Ils nouent des relations avec eux pendant un long moment avant de passer à l'acte. C'est un homme très intelligent et manipulateur.
Bien qu'il semble être un ami sympathique et compréhensif, Paul Williams complote en fait pour trahir et manipuler Joyce Sutton et le monde de la voyance à un niveau inédit jusqu'ici. Une trahison parmi les plus troublantes et écœurantes que l'on puisse imaginer.
Peu de temps après la mort de M. Sutton, Paul Williams a indiqué à Joyce Sutton qu'il avait reçu un message d'outre-tombe. Un message de Charles. Évidemment, Madame Sutton était très vulnérable et l'a cru.
Ce qui est intriguant, c'est que Williams a dit à Joyce qu'il avait reçu un message psychique qui l'attirait. Ce message le menait vers l'horloge du grand-père où, comme par hasard, Charles avait caché son testament.
Il y avait un testament dans l'horloge. Un bout de papier jauni et vieilli.
Le testament, censé avoir été rédigé par Charles Sutton, léguait la totalité de ses biens, à savoir l'argent de son compte, à Madame Sutton et à Paul Williams à parts égales.
Joyce elle-même a déclaré qu'elle n'arrivait pas à y croire, car Charles n'aimait pas beaucoup Paul. Mais ils sont allés à la banque. La banque a honoré le document et Paul Williams est reparti avec 6 500 livres de la pauvre Joyce. Mais ce n'est pas encore tout. Il a également volé ses chéquiers. Quand Joyce est partie 6 semaines en vacances, pour tenter de surmonter le décès de son mari, il a également utilisé ses chéquiers pour vider frauduleusement son compte en banque.
Après avoir gagné la confiance de Madame Sutton, ainsi que l'accès à ses finances et à celles de son défunt mari, il a volé leur chéquier et a payé ses propres factures à l'aide de celui-ci, en imitant sa signature.
À son retour de vacances, en février 2005, elle téléphone à la banque pour connaître son solde. Elle découvre alors que son compte est vide. Elle contacte alors la police et c'est ainsi qu'ils ont retrouvé sa trace.
La fraude au chèque est allée trop loin. L'avidité de Paul Williams a causé sa perte. Joyce Sutton avait accepté les fausses affirmations de Williams à propos du testament. Mais lorsqu'elle se rend compte que l'escroc imite sa signature et vole de l'argent sur son compte, cette incroyable escroquerie surnaturelle s'effondre. Que l'on soit spiritualiste ou non, le fait de s'en prendre aux personnes récemment endeuillées constitue l'un des crimes les plus bas et les plus cruels que l'on puisse commettre.
En tant qu'ami de Madame Sutton, Paul Williams a usé de sa confiance, puis en a abusé, dans l'espoir que, dans son chagrin, elle ne porterait pas plainte.
Il va la voir en sachant qu'elle est dans une position très vulnérable. Elle est très déprimée et sans doute bouleversée par la perte de son mari. Et il s'est servi de cette détresse dans son propre intérêt. Je trouve ça absolument épouvantable. Je trouve ça horrible.
La fraude est un processus qui prend beaucoup de temps. Il faut d'abord gagner la confiance de la personne, puis passer à l'étape suivante, à savoir la mise en œuvre de la fraude en elle-même. Le fraudeur doit impérativement gagner la confiance de la personne à qui il veut soutirer ou encore voler de l'argent. Ce stratagème a fait ses preuves, comme le prouve le cas de Joyce Sutton.
Je pense que William s'est allé un peu trop loin avec ce faux message d'outre-tombe, cette histoire de testament derrière l'horloge du grand-père. Et pour moi, cela semble indiquer qu'il devenait de plus en plus gourmand. Peut-être trop gourmand. Et il n'était pas prêt à fournir les efforts qu'il avait fournis avec les autres personnes âgées. En fait, il n'était pas disposé à prendre le temps de s'attirer les faveurs de Madame Sutton et à attendre patiemment qu'elle meure. Il savait ce qu'il voulait, mais il le voulait immédiatement.
Je sais que cela peut paraître ridiculement insolent qu'il ait cru pouvoir s'en sortir. Mais s'il pensait avoir le total contrôle de ce qu'il faisait, il n'avait aucune raison de penser qu'il ne s'en sortirait pas. Il se peut qu'il ait été victime de sa propre escroquerie, dans le sens où il avait trop confiance dans le pouvoir qu'il exerçait sur sa victime, et dans le fait qu'il allait s'en tirer sans problème. Mais les escrocs ne sont généralement pas les personnes les plus prévoyantes, les plus prudentes ou les plus consciencieuses. Donc ils sont souvent très négligents à cet égard.
La chasse à l'homme avait commencé, et Paul Williams aurait dû savoir ce qui allait se passer ensuite.
Madame Sutton a contacté la police au début de l'été 2005, car elle s'était rendue compte que des fonds avaient disparu de son compte bancaire à son insu. Ce n'est qu'à ce moment qu'elle s'est aperçue que le chéquier de son compte personnel avait disparu.
Heureusement, Joyce ne se laissait pas faire. Elle a senti le piège. Elle s'est rendue à la police, qui enquêtait déjà sur Williams à cause de l'argent qui avait été volé à Gerald Rowley. Ils ont examiné ce testament et ont découvert qu'il s'agissait d'un faux.
À suivre, l'escroquerie de Paul Williams s'effondre comme un château de cartes, lorsque toute l'ampleur de son escroquerie est révélée au monde entier.
On publie l'article ce dimanche, votre visage va être en une du journal. Tous les habitants des Midlands découvriront votre escroquerie et votre comportement d'une cruauté sans nom. Quelle est votre excuse ?
Paul Williams a utilisé son personnage de médium pour arnaquer des personnes âgées sensibles et endeuillées.
Étant donné qu'il était lui-même une petite célébrité, les gens lui faisaient confiance et l'écoutaient.
Il a simplement vu une opportunité d'escroquer des personnes vulnérables et il l'a saisie.
Je pense personnellement qu'il a concocté ce tissu de mensonges dans sa tête et qu'il croyait tout ce qu'il racontait. Je suppose qu'il est l'escroc ultime, car il croit en ses propres mensonges.
Les arnaques de Paul Williams lui ont rapporté des milliers de livres, mais il n'est pas le premier criminel à exploiter le monde des médiums.
L'histoire des phénomènes psychiques et du spiritisme en elle-même est une longue suite de faux mythes, de démasquages, de fraudes, d'escroqueries, de déceptions, et j'en passe. Et pourtant, ça existe toujours. C'est vraiment remarquable.
Il était manifestement capable de regarder les gens dans les yeux et de faire croire qu'il pouvait parler à des personnes décédées.
D'un point de vue spirituel, on ne lit pas les cartes et l'avenir des gens pour gagner de l'argent. En réalité, on fait ça avant tout pour aider les gens.
Aider les gens était la dernière chose à laquelle pensait Paul Williams. Il utilisait son don autoproclamé dans l'unique but de gagner de l'argent.
Ces personnes sont âgées, vulnérables, leurs proches sont décédés. Et il sait exactement comment procéder.
Si vous regardez son escroquerie, il s'agit presque d'une escroquerie amoureuse. Il ne convainquait pas les gens de tomber amoureux de lui, mais plutôt d'entretenir une relation étroite avec lui et de lui faire confiance.
En 2005, les escroqueries et les mensonges de Paul Williams le rattrapent quand la veuve Joyce Sutton s'aperçoit qu'il a volé son chéquier et l'a utilisé pour payer ses propres factures. Elle se rend à la police, qui lance une enquête sur le médium arnaqueur, suspecté de s'en prendre aux personnes les plus vulnérables.
Paul Williams a été arrêté par mon collègue pour tromperie et pour le vol du chéquier, ainsi que pour les transactions frauduleuses et les chèques qui en ont découlé. Une perquisition a été effectuée à son domicile, divers documents appartenant à Joyce et Charles ont été trouvés, ainsi que d'autres documents dont il n'avait pas la légitimité. Ceux-ci appartenaient à Monsieur et Madame Sutton. Pendant ce temps, Madame Sutton m'a contacté pour me parler du testament, car elle était très inquiète. Et à la lumière de ce qui s'était passé avec les fraudes au chèque, elle craignait que le testament ne soit un faux. Notre enquête a prouvé que le testament était bien un faux, réalisé par Williams.
au palais de justice de Wolverhampton, Paul Williams, que l'on voit ici arrivant à son audience, a dû décider s'il allait enfin admettre sa mascarade et son escroquerie.
Je pense que tout le monde a été surpris quand il a décidé de plaider coupable. La plupart des gens qui suivaient l'affaire, comme le Sunday Mercury, s'attendaient à ce qu'il plaide non coupable. Il s'agissait de personnes âgées. Lors du contre-interrogatoire, les avocats pouvaient probablement dire qu'ils étaient confus, qu'il essayait seulement de les aider, etc. Les accusations qu'il a reconnues devant le tribunal concernent la falsification du testament des Sutton et l'argent qu'il a volé à Joyce, ainsi que l'argent qu'il a volé à Gerald Rowley. La police pense qu'il a commis d'autres délits et escroquer d'autres personnes, mais c'est très difficile à prouver.
Mais les témoignages de Jerry Rowley, 82 ans, et de Joyce Sutton, récemment endeuillée, étaient irréfutables. Williams était forcé de reconnaître ses crimes et de plaider coupable. Après l'audience, la journaliste locale Emily Andrew rend visite à l'escroc avant qu'il ne soit condamné pour ses crimes.
J'ai donc dit « Paul Williams ». Il a dit « Oui ». Ou devrais-je dire Paul Doharan ? Il a répondu, qui le demande ? J'ai donc dit, Emily Andrew, Sunday Mercury. On publie un article sur vous cette semaine. Il a paru très choqué et il est devenu tout blanc. Et j'ai dit, vous savez, vous avez trompé ces pauvres personnes âgées. Vous l'avez admis devant le tribunal. Quelle est votre excuse ? Et il m'a sorti une espèce de litanie d'ineptie. Il a dit, oh, je suis vraiment malade. J'ai des problèmes de santé mentale. J'ai très mal au dos. Mon avocat présentera mon allègement pendant le procès. J'ai dit, allons, Paul, c'est votre chance de me le dire. On publie l'article ce dimanche. Votre visage va apparaître à la une. Tous les habitants des Midlands vont découvrir votre escroquerie et votre comportement méprisable. Quelle est votre excuse ? Il n'en avait pas vraiment, juste que les victimes ne disaient pas vraiment la vérité. Mais vous avez plaidé coupable, vous l'avez admis. Chaque histoire a deux versions. Il y a deux versions à chaque histoire. Eh bien, allez-y, donnez-moi la vôtre. Quelle est votre version ? Je ne peux pas vous en parler. Mon avocat m'interdit de parler. J'ai dit, ça vous arrange bien, n'est-ce pas ? Et il a dit, je vous parlerai après le procès. Quand vous serez en prison, oui, on pourrait peut-être écrire un livre ensemble. Je me suis dit, non, ça ne va pas être possible. Merci beaucoup.
En plus de sa déclaration selon laquelle ses problèmes de santé l'ont poussé à adopter un comportement criminel cruel et insensible, l'escroc médium a également déclaré ceci à propos de son don autoproclamé. J'y ai totalement renoncé après l'éclatement de cette affaire. Lors de la condamnation, Adam Weston, qui défendait Williams, a affirmé que l'escroc avait utilisé l'argent qu'il avait gagné pour financer une liaison extra-conjugale, et pour financer son mode de vie plutôt que d'accepter de perdre son statut après sa perte d'emploi.
En gros, il essayait de faire croire qu'il avait besoin d'argent, et qu'il était prêt à tout pour obtenir cet argent, même à escroquer des personnes âgées et endeuillées. Je pense qu'on ne peut pas vraiment se défendre en disant « j'avais besoin de conserver mon mode de vie ». C'est notre cas à tous, non. Pour autant, nous ne trahissons pas la confiance des autres pour garder notre propre mode de vie.
Paul Williams a été condamné à une peine de 18 mois de prison pour ses tromperies. Le juge de l'audience a déclaré que même lui aurait dû le voir venir.
Le juge du procès a même ajouté « pas besoin d'être voyant pour comprendre la gravité de ses crimes ». Le mystère reste entier quant à savoir si les prétendues capacités psychiques de Paul Williams lui ont permis d'anticiper sa peine de 18 mois de prison. Et on ignore si d'autres victimes âgées sont tombées dans les filets de l'escroquerie froide, calculatrice et cruelle de Paul Williams. Mais Williams est un escroc tellement efficace que certaines personnes continuent de croire en son prétendu don, même l'une de ses victimes.
Certaines personnes croient encore en ses talents de médium. Même Joyce Sutton, qu'il a escroqué de la manière la plus insensible qui soit, elle croit toujours qu'il possède un don psychique. Je pense qu'elle croit toujours qu'il s'est débarrassé du fantôme de la première femme de Charles. Mais je pense qu'elle est absolument furieuse qu'il l'ait menée en bateau comme il l'a fait, et qu'il ait froidement escroqué ces personnes âgées. Il a joué avec leurs sentiments et s'est enfui avec leur argent.
Joyce Sutton a fait confiance à cet homme, elle sait maintenant qu'il a trahi sa confiance. Elle s'est donc plongée dans la solitude.
Aucune des victimes âgées et vulnérables de Paul Williams n'a pu récupérer son argent après avoir été escroquée par le faux médium, qui est maintenant libre après avoir purgé seulement 4 mois de sa peine de 18 mois.
C'est déchirant de penser que ces personnes lui ont ouvert leur âme et qu'il a profité d'elles. De plus, c'est très difficile d'établir une relation de confiance avec qui que ce soit après avoir vécu une chose pareille.
Dans ce domaine des phénomènes psychiques, les gens s'auto-sélectionnent. Les personnes qui y croient seront automatiquement plus crédules face à ce genre de choses. Mais on peut espérer que toute personne ayant lu le rapport sur Paul Williams y réfléchira à deux fois.
Il a menti pour gagner de l'argent. Il a menti pour acheter à sa femme une Porsche haut de gamme. Il a menti pour vivre dans une maison luxueuse au bord du canal. Et il a menti pour profiter de ces personnes âgées vulnérables qui croyaient tout ce qu'il disait.